La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Soizic de Séraphin.Légal. Avec Parole de Juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète.
Bienvenue dans cet épisode de Parole de juriste. Nous sommes à l'Assemblée générale de l'Association française des juristes d'entreprise et je suis en compagnie d'un juriste. Pourriez-vous vous présenter ?
Oui, bien sûr. Frédéric Bricout.
Enchanté.
Je suis juriste dans une société qui s'appelle Biomérieux et délégué régional de l'AFJE en région Rhône-Alpes.
Très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené à être juriste et donc présent aujourd'hui ?
Oula, ça c'est une vieille histoire. J'ai été diplômé d'un Master 2 à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, en 1995.
Panthéon-Assas, université bien connue.
Et oui, absolument, que j'aime bien et dans laquelle j'ai fait tout mon parcours universitaire. Et après, tout naturellement, j'ai postulé pour être juriste d'entreprise après avoir effectué mon service national. Et j'ai eu beaucoup de chance, car j'ai été pris par une petite société qui s'appelle IBM.
Petite société, voilà.
Modeste société qui s'appelle IBM, pour son quartier général à Paris, qui était à La Défense. À l'époque, j'habitais Paris, évidemment. et donc, j'étais vraiment très, très heureux de pouvoir commencer ma carrière de jeune juriste dans une société aussi prestigieuse, avec une direction juridique vraiment très, très importante.
Ça ressemblait à quoi ? Parce que c'est vrai que vous arrivez dans un mastodonte, une très grande entreprise.
Exactement. Écoutez, j'ai intégré une direction juridique de plus de 500 juristes.
Wow.
Dans le monde.
C'est exceptionnel, non, qu'il y ait 500 juristes.
Non, je pense qu'il y a quelques grosses sociétés comme ça qui sont si nombreuses, mais c'est vrai qu'IBM, avec plus de 100 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial, pour un jeune juriste qui n'avait jamais commencé à travailler, pour moi, c'était absolument totalement inespéré. Donc vraiment, j'étais fou de joie de pouvoir intégrer cette direction juridique, surtout que j'ai réussi un parcours d'être reçu par le directeur juridique européen, différents juristes américains, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de juristes américains dans le management, le directeur juridique français. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ils ont décidé de m'accorder ma chance et de m'intégrer à la direction juridique d'IBM en France.
Et concrètement, ça ressemblait à quoi votre quotidien au sein de cette direction juridique ?
Alors, l'avantage dans des grosses sociétés comme ça, c'est qu'on peut bouger. Donc en fait, j'y suis resté 11 ans, mais globalement, tous les deux ans, je changeais de poste. De mémoire, alors là, ça fait un peu de l'archéologie malgré tout. J'ai commencé par être le juriste de la division, mais vraiment en arrivant, de la division des micro-ordinateurs.
Mmh.
Donc c'était absolument incroyable, j'étais vraiment jeté dans le grand bain et j'étais pour la France le juriste. Après j'étais le juriste pour des négociations de contrats malgré tout un peu importants dans le domaine de la santé. Et après au bout de 3 ans, on m'a envoyé au quartier général européen.
Où ça ?
Eh bien c'était à Paris.
Ah, je pensais que j'allais dire Bruxelles.
Alors c'était à Paris, c'était à 30 étages plus haut dans la même tour, parce qu'IBM avait une tour de 40 étages juste pour IBM, à La Défense. Donc là encore une fois, j'ai pris ça comme un coup de chance incroyable, parce que là j'ai côtoyé la crème de la crème des juristes américains qui venaient passer 3, 4, 5 ans à Paris, dans une ville magique pour eux. Et donc j'ai côtoyé globalement les futurs directeurs juridiques d'IBM. Et là j'avais un poste européen, donc ce qui m'a permis de côtoyer tous mes collègues européens, que ce soit en Espagne, en Italie, en Scandinavie, en Angleterre.
Vous avez appris du coup beaucoup de langues ou tout se faisait en anglais ?
J'avais un peu de chance d'avoir vécu 3 ans à Londres quand j'étais petit, donc je n'ai pas beaucoup appris en anglais.
Vous étiez déjà fluent.
Oui, mais ça, j'avais cette chance-là. Et en plus, je parlais aussi espagnol parce que j'ai vécu 2 ans à Madrid avant. Mais ce que j'ai appris, c'est vraiment de côtoyer, à mon avis, ce qui faisait de mieux à l'époque en juriste, c'est-à-dire le juriste américain.
C'est vrai. Qu'est-ce qui change avec la culture américaine juridique ?
Je pense, en fait, c'était il y a 25 ans. Donc je pense que le juriste français a fait beaucoup de progrès depuis. Mais à l'époque, le juriste américain était vraiment le bras droit du président.
Ah, il avait un rôle plus un que rôle, de technicien, un rôle stratégique.
Un rôle de conseiller, un rôle de stratège. Mm-hmm. Et je me rappelle d'une anecdote assez récente. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai négocié un deal avec des Japonais, ils m'ont dit, c'est très intéressant, nous au Japon, il y a 5 businessmen pour un juriste. En Europe, vous avez 5 juristes pour 5 businessmen. Et aux US, il y a 5 avocats pour un businessman. Ce qui montre bien le rôle prééminent du juriste américain. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance, je pense, de commencer ma carrière dans une entreprise américaine. Parce que je pense vraiment avoir appris les bases les plus exigeantes possibles du métier de juriste. Mais je vous dis, il y a 30 ans, le métier de juriste a beaucoup progressé en France.
Et qu'est-ce qui a progressé du coup? On s'est rapproché de cette vision stratège selon vous?
Je pense que il y a 30 ans, le métier de juriste d'entreprise était beaucoup moins en France considéré qu'aujourd'hui. Je pense que grâce notamment à des associations comme la FJE, mais aussi au fait que les juristes sont vraiment de meilleurs meilleurs en France, je pense que vraiment, on n'a pas beaucoup maintenant de différence entre le juriste américain et le juriste français. Il faut néanmoins pas s'endormir sur nos lauriers. Mm-hmm. Je pense qu'il faut à peu près une génération pour gagner la confiance d'un dirigeant. Je pense qu'il faut une seconde pour la perdre. mais voilà, je pense que c'est quand même agréable. Et je pense qu'on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui en France, que quand un juriste en France, dans une société en France, arrive dans une salle, il y a malgré tout, il est respecté.
C'est vrai,
ça,
c'est
quelque chose que j'ai
d'autorité.
Tout de suite senti. J'ai senti ça quand je suis arrivé chez IBM et que maintenant, je sens très bien dans la société dans laquelle je suis, qui était pour le coup très française.
Et justement, vous avez rejoint la FJE, qui est une association qui milite pour la défense des droits des juristes et de leur représentation dans la société, mais aussi dans l'entreprise. Comment se traduit votre engagement concrètement?
Au sein de la FJE?
Oui.
Ça faisait longtemps que j'étais membre du bureau de la délégation Rhône-Alpes, parce que je trouvais que c'était assez intéressant, et surtout de rencontrer différents juristes. Et après, par un concours de circonstances, j'ai été nommé délégué régional en octobre dernier. Mm-hmm. Donc en fait, c'est assez récent. Et en fait, mon idée, elle était assez simple. Mon idée, c'était d'améliorer, de développer l'existant. Parce que vraiment, ce que mes prédécesseurs ont fait, c'est absolument incroyable. Parce qu'on est la première région en France pour la FJE. Plus de 400 juristes membres de la FJE en région de Rhône-Alpes. Alors on a beaucoup de chance, on a des grosses pépites, des grosses sociétés, que ce soit à Annecy, à Saint-Étienne, à Grenoble, à Lyon, donc on a beaucoup de chance. Mais malgré tout, j'y ai vu l'opportunité de sortir de mon métier de juriste d'entreprise, qui est très intéressant, et de pouvoir discuter avec mes pairs. Mm-hmm. Et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup amusé, beaucoup intéressé, c'est d'être responsable d'une équipe qui travaille dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, dans la joie. On est tous bénévoles.
Donc, ça change, hein, le temps bénévole a une autre saveur,
oui,
je trouve.
Oui, mais je pense que ça nous oblige à être encore... Alors, indulgent, mais être encore meilleur, mm-hmm. parce qu'on sait très bien qu'on ne peut motiver les gens qu'en les intéressant.
Absolument. Voilà. Et concrètement, quels sont les événements organisés
Alors, je vous avoue qu'on est assez dynamique. et je suis vraiment très, très fier de pouvoir dire que, par exemple, depuis le mois d'octobre, on a créé une antenne à Annecy, mm-hmm. des Savoies. On va créer le 15 juin prochain une antenne à Grenoble pour l'Isère. On a plus ou moins déjà créé une antenne de Haute-Loire à Saint-Étienne. Et ça, quand je voyais, par exemple, il y a un mois, la réunion qu'on a faite en Savoie pour la création de l'antenne des Savoies, les yeux pétillants des juristes d'entreprise de Haute-Savoie et de Savoie qui disaient « Enfin, on est considérés. Enfin, la FJE s'intéresse à nous. » Je me suis dit « C'est génial. » Je me suis dit « On a vraiment fait ce qu'il fallait faire. »
Et concrètement, d'un point de vue de l'âge, c'est des juristes plutôt jeunes, plutôt installés, il y a un peu de tout.
C'est ça qui est génial. C'est que quand j'ai vu l'audience, je suis arrivé, il y avait une salle de 50 juristes remplie. J'étais totalement impressionné. Et j'ai vu plein de jeunes. Et je me dis, mais c'est génial. Je me dis, mais pourquoi on n'a pas eu cette idée plus tôt? On aurait dû faire ça beaucoup plus tôt. Après, c'est jamais trop tard. Mais là, je vois qu'on a vraiment semé une graine. Et ça va être, ce qu'on va faire va être incroyable. Avec mon collègue Anthony, qui est le responsable de l'antenne de Savoie, Olivia, qui est à la Haute-Loire, avec Séverine, qui est pour l'Isère, on va régaler les juristes locaux qui vont enfin pouvoir avoir un service qui sent la hauteur de ce qu'ils sont. Parce que il y a des grosses sociétés, que ce soit SOMFI, le CEA. Mm-hmm. Il y a vraiment de très belles perles en région Rhône-Alpes. Et elles ne sont évidemment pas toutes basées à Lyon.
Et justement, il y a aussi l'enjeu de se dire qu'on peut être juriste en dehors de Paris aussi, qu'il y a de belles opportunités ailleurs.
Alors ça, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, parce que moi, je suis parisien pure souche.
Ah.
Depuis 4 générations à Paris et à Paris dans le premier arrondissement de Paris. Donc voilà. Malgré tout, en 2006, j'ai décidé de faire le choix de la province. Mmh. C'est pas du tout pour fuir Paris, c'est parce que je pensais que l'herbe était aussi verte ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis allé à Lyon avec mon épouse qui était universitaire à Lyon. Et depuis on s'y plaît beaucoup. Donc encore une fois, quand je vois le parcours que je peux faire pour une société qui s'appelle Biomérieux à Lyon, qui est une pépite, qui croit énormément et qui est maintenant une grosse société multinationale, évidemment qu'en dehors de Paris, il y a beaucoup de belles choses à réaliser. Et la France regorge de pépites en région.
Absolument. Et concernant votre parcours à Biomérieux, oui. À quoi ça ressemble une journée dans vos baskets de juriste d'entreprise?
La bonne nouvelle, et la raison pour laquelle j'y vais avec plaisir tous les jours, c'est que je n'ai aucune idée le matin de ce que je vais faire toute la journée. Mais vraiment aucune idée. Alors, principalement, mon activité consiste à négocier des contrats.
Mm-hmm.
Et donc ça, c'est génial parce que c'est, je pense, c'est là où je suis le moins mauvais. C'est-à-dire de permettre de réconcilier les parties et de trouver des compromis.
Vous êtes plutôt médiateur ?
Non, parce que je sais ce que je veux. Donc je défends les intérêts de mon entreprise. Mais par contre, se coucher le soir en disant on est arrivé à closer un deal, mm-hmm. on est arrivé à rapprocher des parties différentes et on est arrivé à rendre des gens heureux qui signent un contrat, moi, ça me remplit de joie.
Et ça, c'est des soft skills. C'est pas toujours une question de maîtrise du juridique.
Alors,
c'est...
malgré tout, si. Malgré tout, vous pouvez être la personne la plus souriante du monde avec le meilleur entre-gens et la plus agréable. Si vous maîtrisez pas la technique juridique, vous arriverez pas à...
Mais est-ce que vous pensez que c'est la technique juridique qui persuade ?
Oui, alors je pense qu'il faut les deux.
Je
pense qu'il faut les deux. Et c'est ce que je dis, par exemple, aux étudiants, parce que j'enseigne à l'UCLI, qui est l'Université catholique de Lyon, et à Lyon 3. Moi, c'est ce que je dis aux étudiants et c'est ce que je dis, par exemple, aux stagiaires qu'on recrute chez nous. Je dis, si votre CV arrive à la direction juridique des Beaumérieux, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas trop, trop mauvais. Mm-hmm. Vous avez passé toutes les sélections, vous avez fait le bon Master 2. Donc, sans ça, vous ne seriez pas arrivé chez nous. Votre CV ne serait pas arrivé chez nous. Par contre, moi, mon rôle, c'est de détecter le petit talent de plus.
Et le petit supplément d'âme.
Mais sans avoir le bon Master 2, sans avoir eu les bons stages, sans avoir eu l'élément différenciant, sans être bilingue en anglais... Votre CV ne serait jamais arrivé chez nous.
Ça, il y a une grosse importance du fait d'être bilingue en anglais.
C'est-à-dire que nous, 90% de notre activité est à l'étranger. Mm-hmm. Je pense que 80% de mon activité est en anglais. Je ne peux pas me permettre de travailler avec des gens qui ne soient pas, je dirais pas natifs, parce que tout le monde se dit natif. Aujourd'hui, ça, on n'est pas vrai. Mais moi qui suis vraiment bilingue, et je n'ai aucun mérite pour le faire, parce que j'ai vraiment vécu en Angleterre, et encore une fois, ayant travaillé 11 ans chez IBM, je n'ai aucun mérite de bien parler anglais. Ça fait toute la différence. Et quand vous négociez, surtout pour un juriste, déjà, si vous trompez en français entre deux mots...
Ouais, c'est vrai que ça peut avoir de lourdes conséquences.
Si vous ne maîtrisez pas la différence en anglais, vous pouvez faire des contresens absolument fondamentaux.
En ce moment, dans la sphère juridique, il y a des débats qui reviennent régulièrement, mm-hmm. notamment celui de la confidentialité oui. des échanges oui. au sein des entreprises. Et comme vous avez travaillé pour une entreprise américaine et dans le domaine international, ça doit vous intéresser.
Complètement, et j'ai du mal à me convaincre que c'est encore un sujet.
C'est vrai, pour vous, c'est old fashioned.
Mais j'ai commencé ma carrière chez IBM. J'ai commencé ma carrière avec un directeur juridique suédois, des collègues américains, des collègues espagnols, des collègues belges, des collègues anglais. Donc en fait, la question dans ma tête, naïvement à 25 ans, elle ne s'est jamais posée.
Oui, c'est que vous avez l'impression qu'on est en train de retard.
Je ne comprends pas ce débat, en fait. Aujourd'hui, je ne le comprends pas. Quand je discute même aujourd'hui avec mes collègues chez IBM américains, j'ai l'impression qu'on est des mondes extraterrestres. Ils ne nous comprennent pas. Donc je pense que c'est vraiment dommage d'envoyer un message aussi négatif, aussi old-fashioned, aussi rétrograde à nos collègues qui, pour eux, ne comprennent pas ce débat.
C'est qu'il devrait y avoir une harmonisation. Vu qu'on travaille à l'international, c'est vrai que ça crée des particularismes au sein des entreprises françaises.
Ça crée surtout de la frustration, ça crée de la réticence. Les juristes américains nous disent « Est-ce que je peux vous envoyer ça parce que vous n'avez pas legal privilège ?» Nous, on leur répond « Oui, mais enfin, si vous avez ça et que vos données sont saisies par le gouvernement américain, donc... Je pense qu'il faut l'harmonisation. On est dans un monde globalisé. Aujourd'hui, alors encore une fois, je ne suis pas représentatif de tous les juristes de France. J'ai travaillé dans des grosses structures mm-hmm. globalisées, mondialisées. Donc peut-être que j'ai peut-être une vision un peu caricaturale. Mais on est dans un monde, on est dans le monde de la Terre, avec du business qui est global. Encore une fois, je ne gomme pas du tout les pratiques. J'ai travaillé avec des juristes japonais, des juristes saoudiens, des juristes anglais. Donc il y a bien une culture différente qu'il faut respecter. Mais il faut qu'on ait les mêmes principes. Il faut qu'on ait les mêmes réflexes.
Il y a un autre sujet aussi qui est très présent dans la communauté juridique, c'est celui de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que vous, c'est un sujet qui vous touche au quotidien ?
Alors, moi, c'est un sujet qui me touche, mais peut-être sur un aspect différent de ce que peut-être les autres personnes vous ont dit. Je ne vais pas revenir sur le prisme écologique, mm-hmm. Qui est, à mon avis, une tarte à la crème aujourd'hui, parce que c'est évident. Mm-hmm. C'est évident, c'est un changement qui est complexe. Par exemple, je supporte notamment parmi mes clients, la direction des systèmes d'information. C'est un vrai sujet. Si demain, il faut arrêter de prendre l'avion, mais en consultant votre smartphone, vous consommez autant que l'avion, on voit bien qu'on n'a pas tout résolu. Et je ne suis pas sûr que les gens soient bien conscients qu'en regardant des vidéos ou en mettant des data centers au pôle Nord, ça améliore la situation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, moi, j'aurais une approche aussi un peu différente. Au-delà des problématiques écologiques, je pense qu'il y a des problématiques d'inclusion.
D'inclusion ?
Oui, qui sont aussi importantes. Inclusion, alors évidemment, des femmes, même si je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ce débat est passé. J'espère qu'on a fait beaucoup de progrès et qu'on n'est plus là. Et je pense qu'il y a inclusion de toutes les personnes qui peuvent travailler dans des sociétés ou dans des directions juridiques. Et je pense que malgré tout, dans ce domaine-là, les directions juridiques ont peut-être des progrès à faire.
Et comment on pourrait les faire, ces progrès ?
Alors, encore une fois, moi, je vois bien, parce que j'ai la chance d'être dans une direction juridique et d'être aussi chargé d'enseignement à l'université. Et là, c'est génial de voir que l'université, elle, a réussi cette inclusion. Mm-hmm. On voit vraiment des personnes d'origine totalement différente. Et je me dis, ces personnes-là que je vois en Master 1, en Master 2, ben, elles vont forcément arriver dans les directions juridiques. Je pense que ça prend beaucoup de temps. Ça prend peut-être trop de temps, mais c'est clairement le débat, la question qu'il faut qu'il se pose. Et moi, quand j'interview, encore une fois, j'interview beaucoup de stagiaires pour les stages chez nous, j'avoue que j'ai ce prisme en disant, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau de recruteur.
Pour faire avancer l'inclusivité.
C'est ma responsabilité en tant que juriste senior, en tant que recruteur, de faire changer les choses. Si ce n'est pas moi qui le fais, il faut que j'arrête de me plaindre. J'ai les cartes en main pour le faire.
Et quel est l'enjeu, selon vous, qui sera présent dans tous les esprits des juristes dans l'année à venir ? On va dire un sujet qui va ressortir, selon vous
En fait, j'en verrai deux. Cette capacité d'interagir entre juristes de différentes nationalités, différentes origines, différentes formations. Alors, potentiellement, le juriste sort peut-être d'un moule. Alors, je vous dis que moi, j'ai fait mes études à l'université d'Assas. Je pense qu'elle a beaucoup changé, mais quand j'y étais, voilà, c'était quand même assez peu représentatif de la société française. Encore une fois, ayant une femme qui est enseignante à l'université en France, je sais que ça a changé, donc ça c'est bien. Ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet pour moi, c'est l'adaptation du juriste aux nouvelles technologies. Mm-hmm. Je n'ai pas du tout peur de l'intelligence artificielle, mais alors pas une seconde.
Vous voyez plutôt ça comme un atout ?
Bah, quand je vois ce qu'il faut comme qualité pour closer un deal, je ne suis pas inquiet du tout. Par contre, là, je me poserai plus de questions et je n'ai toujours pas la réponse. C'est qu'est-ce qu'on va faire des juristes juniors ?
Très bonne question.
J'avoue que là, j'ai un doute.
Vous pensez que l'intelligence artificielle est susceptible de se substituer
à
des compétences peu matures ?
Je vois qu'elle est moins encline à se substituer à quelqu'un qui est un juriste senior avec une très grosse valeur ajoutée, très grosse expertise, mm-hmm. et qui, avec... en 5 minutes, en 1 heure de réflexion, peut apporter quelque chose. Ça, en tout cas, moi, je vois dans mon cas de figure, je vois ce que modestement, moi ou d'autres juristes seniors peuvent apporter. Un juriste junior, là, j'ai vraiment une question ouverte. Mais je me dis, si maintenant, il va recruter des juristes qui ont 40 ans, mais qui ont... C'est le mouton à 5 pattes, qui ont... J'ai un vrai questionnement pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire du juriste junior ? Si c'est lui qui peut être remplacé par l'intelligence artificielle le plus facilement possible.
Il y a un autre enjeu peut-être, c'est de former ces juristes juniors à maîtriser cette intelligence artificielle pour faire gagner du temps aux entreprises,
oui.
et peut-être avoir le temps de développer d'autres compétences,
oui.
plus valorisables.
Alors là, on en revient à la formation de l'université.
Mm-hmm.
Et là, c'est le rôle de l'AFJE aussi. Par exemple, moi, je fais partie du conseil d'administration, du conseil de direction de la faculté de droit de Lyon 3, et c'est clairement un message que je fais passer. Mais ils en sont conscients. Là, j'étais à un conseil de faculté de l'université de l'UCLI sur 2 heures d'échange avec les professionnels. Une demi-heure, c'était sur l'intelligence artificielle. Donc, les universités françaises, à mon avis, sont très, très au courant de ces enjeux-là.
Merci Frédéric Péricou d'avoir été au micro de Parole de Juriste.
Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.legal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite.